Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Éthique. Tout de suite, une interview réalisée par Pascal Marcaggi.
Les 1er et 2 juillet s'est tenue la 5e Monaco Blue Initiative, un rendez-vous désormais inscrit à l'agenda de tous ceux que la mer et les océans comptent d'acteurs impliqués, un think tank en quelque sorte exempt des jeux de pouvoir. La Monaco Blue Initiative est en dehors de toute négociation ou tractation politique. Olivier Dufourneau, directeur de la politique des océans à l'Institut océanographique Fondation Albert 1er de Monaco, Prince de Monaco.
C'est un rendez-vous annuel des experts et des acteurs des océans qui se retrouvent entre responsables politiques, scientifiques et entreprises qui viennent réfléchir ensemble à l'avenir des océans et à la façon d'améliorer notre relation à la mer, la façon dont on l'exploite, dont on en vit et dont il faut la préserver pour l'avenir.
5e du genre, la Monaco Blue Initiative 2014 s'est tenue au Chili.
La Monaco Blue Initiative au Chili s'est refocalisée sur les grands sujets qui sont les siens depuis les premières éditions, les modes de préservation des océans, notamment la création d'aires marines protégées, mais aussi les questions d'évolution de la pêche et de l'aquaculture vers plus de durabilité de la ressource et cette année aussi le sujet de la haute mer qui est la nouvelle frontière, le nouveau défi dont il faut s'emparer aujourd'hui.
La pêche industrielle est le premier secteur de l'activité maritime aujourd'hui. Or, l'aquaculture est devenue plus importante que la pêche au Chili en 10 ans. L'aquaculture a littéralement explosé. Elle pesait 10 millions de dollars en 1990. Elle en pèse aujourd'hui 1600 millions, 700 000 tonnes contre 80 000 tonnes selon la FAO.
Un premier panorama a permis de montrer qu'alors que la pêche au niveau mondial a tendance à stagner, voire à régresser du fait d'une surexploitation ces dernières décennies, aujourd'hui en termes de volume de produits de la mer extraits, c'est l'aquaculture qui prend le dessus, le relais pour satisfaire les nouveaux besoins en produits de la mer. Alors une des premières questions était est-ce que l'aquaculture peut vraiment nourrir le monde ? Et une deuxième question était dans quelles conditions est-ce qu'elle peut le faire en termes d'impact sur l'environnement.
Au Chili, l'élevage de saumon, de l'Atlantique royal ou encore argenté sont toutes des espèces introduites devenues le premier secteur de l'aquaculture.
On a identifié deux défis. Le premier, c'est que effectivement, ça a été un constat au niveau mondial et au Chili en particulier. Deux défis que doivent relever l'aquaculture, c'est d'arriver à se développer sans atteindre un niveau critique où les conséquences environnementales deviennent dommageables et donc en particulier en termes d'introduction de virus, de dégradation du milieu sauvage environnant. Et donc, des efforts restent à faire dans ce domaine pour arriver à éviter que l'aquaculture ne suive la voie de l'agriculture intensive, de l'élevage intensif que l'on peut connaître et décrier par ailleurs. Donc, une vraie exigence de ce côté-là. Et une deuxième exigence qui est celle d'étudier le bilan complet, de s'assurer qu'en termes d'apport alimentaire, l'aquaculture a un apport positif pour l'humanité, puisque ce que l'on a pu identifier, c'est que certains cas, et notamment l'aquaculture des poissons carnivores, comme le saumon, sont une fausse solution, puisque un saumon a besoin de 3 ou 4 fois son poids en poisson pour grandir, et donc finalement que l'apport est négatif en termes alimentaires. Donc d'autres solutions sont à trouver à partir de poissons herbivores ou de nourriture des poissons qui ne soient pas eux-mêmes des ressources rares. Donc voilà deux grands défis que l'aquaculture doit continuer à relever. Des progrès ont été faits et notés, mais ces défis restent entiers.
C'est au Chili que se tient en 2017, le prochain congrès international des aires marines protégées. Des aires marines protégées qui estiment la Monaco Blue Initiative ne peuvent pas mettre la mer entre guillemets sous cloche en excluant les acteurs locaux.
Les aires marines protégées sont véritablement un mécanisme, un mode de gestion des océans qui nous intéresse depuis plusieurs années au sein de la Monaco Blue Initiative. Cette année, alors d'une part, on s'est appuyé sur l'exemple chilien et notamment sur un projet d'aires marines protégées autour de l'île de Pâques qui nous a été présenté en détail et évoqué par des représentants des pêcheurs traditionnels de l'île de Pâques qui en attendent beaucoup pour préserver leurs ressources contre l'exploitation intensive venue de l'extérieur. Donc deux éléments clés, on va dire, ont été identifiés pour assurer véritablement la bonne efficacité des aires marines protégées. La première, c'est que ça ne doit pas être imposé localement comme une mesure de gel des activités et d'opposition de la nature contre les populations existantes, mais au contraire, être un vrai projet de gestion. On l'a vu avec l'île de Pâques, mais on le voit de façon plus générale, associer de façon intime les communautés locales à la préservation de leur territoire. Le ministre de l'Environnement de la Polynésie française nous a montré que aux Marquises, des écoles sont associées à la gestion des aires marines protégées locales pour vraiment investir dès le départ les nouvelles générations à cette préservation de l'environnement et à cet équilibre entre l'exploitation de l'environnement et sa préservation pour l'avenir.
Parmi les acteurs locaux des aires marines protégées, la petite pêche, des aires marines protégées qui doivent d'ailleurs avoir les moyens d'être gérées.
Effectivement, tout le monde doit être associé, les pêcheurs y compris, puisqu'ils sont parmi les premiers utilisateurs des espaces. Un deuxième défi qui a été évoqué, c'est celui de leur permettre de se financer et d'être gérés convenablement, donc de payer leur surveillance, de payer l'étude environnementale des aires marines protégées dans la durée. Tout cela a un coût qui doit être maîtrisé, mais qui reste réel. Et donc, deux pistes ont été abordées. La première, c'est la contribution directe des bénéficiaires de ces aires marines protégées. Le tourisme, que ce soit les plongeurs, que ce soit les croisières, ceux qui vont bénéficier directement du bon état du milieu marin, mais aussi les nouvelles activités qui peuvent s'y installer, aquaculture, éolienne, tous les utilisateurs de la mer doivent contribuer à sa préservation financièrement. Le deuxième est un système de mécanismes durables qui permettent en fait d'éviter les coupes budgétaires dont on entend parler en ce moment et qui peuvent intervenir partout dans le monde et pénaliser une gestion qui a besoin du long terme, hein, rappelons-le. Donc ces mécanismes de financement que l'on appelle fonds fiduciaires, en fait, qui permettent par des revenus de placement financiers d'assurer sur le long terme le financement des projets, se mettent en place progressivement. Des exemples dans les Caraïbes ont été examinés et se met en place en Méditerranée par un partenariat entre Monaco, la France et différents acteurs du bassin méditerranéen. Ce type de fonds pour véritablement permettre qu'une aire marine protégée ne soit pas juste un bout de papier qui est signé à un moment, mais véritablement une démarche de gestion de long terme qui trouve son financement.
La haute mer. Nous savons que la convention de Montego Bay de 1984 gère les espaces marins à moins de 200 000 et la question est aujourd'hui celle de la haute mer exploitée mais non gérée à l'échelle internationale.
Alors effectivement, c'est une des questions qui se pose aujourd'hui de façon de plus en plus sensible puisque c'est les espaces qui sont à plus de 200 000, donc un peu plus de 300 km des côtes. Ces espaces sont restés longtemps inaccessibles et ce caractère difficilement exploitable a longtemps fait privilégier une certaine liberté qui s'est transformée progressivement en laisser-faire. Aujourd'hui, ces espaces sont l'objet de pêche parfois excessive d'ailleurs, mais aussi d'autres exploitations qui vont se développer, comme l'exploitation des ressources minières des grands fonds. Donc toutes ces utilisations doivent maintenant être régulées, être pensées dans des espaces qui ne dépendent d'aucun État. Et donc un mode de gestion est complètement à penser aujourd'hui à différentes étapes. On a besoin d'un cadre international sous l'égide de l'ONU qui devra se négocier dans les années à venir et c'est un des défis de faire accepter l'existence d'un tel cadre, mais aussi au niveau régional, c'est-à-dire entre pays, au niveau de la Méditerranée, au niveau de différents écosystèmes marins, de réformer les structures de gestion des pêches ou de protection de l'environnement existantes pour les rendre plus efficaces et plus adaptées à répondre à ces nouveaux défis.
Intérêt de la Monaco Blue Initiative, elle ne prend pas part aux négociations ni nationales ni internationales. Elle permet en revanche de rendre l'océan présent dans les agoras où il avait jusqu'alors du mal à être pris en compte, entre autres les négociations sur le climat.
On agit véritablement comme un centre de réflexion, de stimulation pour faire émerger des idées, sensibiliser et surtout partager entre les différentes catégories d'acteurs des océans, politiques, économiques et scientifiques, pour que chacun après puisse essaimer finalement et ce sont les différents participants qui, derrière ça, dans les différentes instances de gestion pratique locale ou dans les négociations internationales, vont pouvoir relayer les idées qui sont développées au sein de la Monaco Blue Initiative. Ce qu'on constate, c'est que depuis quelques années, les océans sont beaucoup plus présents dans les discussions politiques, dans toutes les instances et aujourd'hui à l'ONU en particulier. Et cette dynamique, on cherche véritablement à l'alimenter avec des idées nouvelles, à l'alimenter en mettant en avant certains éclairages et notamment cette année, au fil des discussions, on a pu constater qu'on a un nouveau défi, on va dire, temporel à relever, qui est de non plus réparer les dégradations passées, éviter les dégradations actuelles, mais on a aussi à anticiper certains phénomènes, certains désordres, et je pense notamment au changement climatique ou à l'acidification des océans, dont on ne sait pas encore exactement quelles seront les conséquences sur les océans en termes de répartition des espèces, d'effets sur les ressources, sur la pêche, sur l'aquaculture, sur la santé des océans en général, mais en tout cas, on sait qu'ils vont arriver à grande échelle, hein, puisque aujourd'hui, on voit les difficultés à réduire les émissions de dioxyde de carbone. carbone. Donc ces effets-là, il faut aujourd'hui qu'on soit en mesure de les anticiper et de rendre les océans plus robustes à ces changements que nous leur infligeons.
En 2015, la COP 21, la 21e conférence onusienne sur le climat, se tiendra à Paris. Le rôle de la Monaco Blue Initiative est en l'occurrence que l'océan, le principal régulateur du climat de la planète, figure à l'ordre du jour.
C'est essentiel et d'ailleurs on veillera à ce que dans les discussions climatiques qui auront lieu notamment à Paris l'année prochaine, les océans aient une place à leur échelle, c'est-à-dire immense. Le rapport du GIEC qui est sorti cette année le montre de façon criante. Les océans sont au cœur de la régulation climatique. Ils ont permis beaucoup de choses et ils ont permis de tempérer le changement climatique jusqu'à présent, mais ils en souffrent en même temps de ce changement et de l'acidification des océans. Et donc on doit y attacher une attention toute particulière pour que cette mécanique à la fois immense mais fragile puisse continuer à opérer.
La Monaco Blue Initiative, la gouvernance de la haute mer, la présence des océans à l'agenda international, des aires marines protégées avec les acteurs locaux, tout sur Monaco Blue Initiative en un seul mot.org.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.